Les élections aujourd'hui en France, est-ce à qui paye gagne? On en parle avec notre invitée Julia Caget, professeure d'économie des médias à Sciences Po Paris, responsable du pôle économie pendant la campagne du candidat Benoît Hamon, c'est-à-dire une vie politique qu'elle a connue aussi dans les coulisses avant de l'observer. Après Sauver les médias, publié au Seuil en 2015, l'économiste appelle aujourd'hui à sauver la démocratie en repensant le financement de la vie politique en voie de privatisation. Un système inégalitaire où les plus fortunés, fiscalement avantagés, déterminent par leurs dons la nature du futur de l'exécutif. Dans Le prix de la démocratie qui paraît chez Fayard, elle avance l'idée de créer des bons pour l'égalité démocratique qui développeraient le financement public de la démocratie. Bonjour Julia Caget.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous posez la question du financement de la vie publique. On connaît le poids de l'argent privé dans les campagnes américaines et dans la vie publique tout court. Aujourd'hui encore, avec la philanthropie affichée de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui va créer un fonds doté de 2 milliards de dollars destinés à l'éducation dans les communautés défavorisées, pour le logement aussi des familles sans abri. Alors c'est moins que Bill Gates, c'est moins que Warren Buffett ou que Mark Zuckerberg, mais c'est la preuve aussi que le privé peut parfois agir là où le public est en retrait, se substituer à l'action de l'État.
Non, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le privé a affaibli le public. Donc aujourd'hui, il y a plus d'État. Et du coup, on vient appeler à l'aide ce privé. C'est extrêmement intéressant dans le cas de Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est vraiment la figure du libertarien aux États-Unis. C'est quelqu'un qui veut le moins d'État possible, qui ne veut pas payer d'impôts. C'est quand même quelqu'un qui a fait toute sa fortune sur Amazon à partir d'un système où il échappe à l'impôt aux États-Unis. C'est comme ça, finalement, qu'il est devenu milliardaire en ne payant pas d'impôts aux États-Unis. D'ailleurs, très peu ailleurs dans le monde. Et donc on a cet individu qui ne paie pas d'impôts, qui d'ailleurs, entre parenthèses, mais c'est un autre problème, ne paie pas non plus vraiment ses employés, qui s'offre aujourd'hui un véritable coup de communication en faisant semblant tout d'un coup d'être généreux. Mais c'est quoi une démocratie? Une démocratie, c'est un système dans lequel le gouvernement prélève les impôts, un gouvernement élu par la majorité des citoyens, et ensuite ces impôts sont redistribués en fonction des préférences exprimées par les citoyens. Et là, on n'est pas dans une situation démocratique, d'une certaine manière. On a un individu qui seul a décidé d'échapper à l'impôt, qui prétend donner 2 milliards d'euros, 2 milliards de dollars, mais qui, en donnant ces 2 milliards de dollars, va d'ailleurs échapper encore davantage à l'impôt, puisqu'il va bénéficier de réductions fiscales aux États-Unis, et qui décide lui-même ce qu'il va faire de son argent. Et ça, c'est un système extrêmement dangereux, où on substitue à la puissance publique les intérêts privés.
L'État-providence en France, nous, on a un plan pauvreté chiffré à 8 milliards sur 4 ans. Alors sans cynisme, est-ce que c'est un signe de bonne santé de notre démocratie? Pas bien sûr les inégalités, pas bien sûr la pauvreté, etc. Mais le fait que l'État agisse à travers un plan pauvreté réparer un peu les inégalités.
Si je voulais être cynique, je dirais qu'hier il y a eu le plan pauvreté, qu'aujourd'hui on a le plan vélo, et qu'à l'arrivée ce gouvernement pédale beaucoup quand même, et notamment pédale beaucoup pour se rattraper sur sa gauche. Qu'est-ce que c'est 8 milliards d'euros? Déjà 8 milliards d'euros...
C'est 4 fois plus que ce que Jeff Bezos va donner aux États-Unis.
Oui, alors soyons extrêmement précis. C'est 8 milliards d'euros sur 4 ans. Donc c'est 2 milliards d'euros par an. Combien ça a coûté les cadeaux fiscaux faits par Emmanuel Macron aux plus riches depuis son arrivée au pouvoir? C'est quasiment 6 milliards, la suppression de l'impôt sur la fortune, plus la flat tax. 6 milliards par an. Hein, donc on a donné 6 milliards par an depuis l'an dernier aux plus riches, et on va continuer à le faire chaque année. Et là, on voudrait nous faire applaudir parce qu'on va consacrer une enveloppe de 2 milliards d'euros aux plus pauvres par an, sachant qu'en plus un certain nombre de ces mesures qui sont comptabilisées dans cette enveloppe existent déjà. Donc non, moi je me réjouirais vraiment s'il y avait un vrai plan pour la pauvreté qui était mis en place aujourd'hui en France. Malheureusement, les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont largement insuffisantes, et c'est pas surprenant. Emmanuel Macron, c'est le président des riches. Et une des choses que je montre dans mon livre, c'est pourquoi Emmanuel Macron est le président des riches. Et Emmanuel Macron est en partie le président des riches parce qu'il a été financé pendant toute sa campagne électorale par les dons des Français aux revenus les plus élevés.
Alors la démocratie, vous le rappeliez, c'est l'État qui prélève l'impôt et le redistribue. La France reste une démocratie, mais on glisserait lentement, mais sûrement, vers un régime censitaire. C'est ce à quoi vous tenez de souligner dans cet essai-enquête, le prix de la démocratie, une étude comparative que vous avez menée dans différents pays qui montre en fait une France pas si vertueuse qu'on ne le pense, à l'instar des autres démocraties occidentales. Si on revient au système de financement de la vie politique en France, depuis une trentaine d'années, on a eu de cesse pourtant d'encadrer le financement de la vie publique. Les entreprises ne peuvent pas contribuer dans le financement des partis, les dons des particuliers sont limités et c'est l'argent public qui finance majoritairement cette vie partisane à travers le financement des partis et le remboursement des frais de campagne ou les déductions fiscales auxquelles les donateurs ont le droit. Alors il est où le glissement dans tout ça ?
Alors il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que c'est une illusion de penser que c'est l'argent public qui finance majoritairement la vie politique en France. Le financement public direct des partis politiques en France, c'est 63 millions d'euros par an. Les dons privés aux partis politiques chaque année en France, c'est 101 millions d'euros par an. Donc les partis politiques français reçoivent en moyenne plus d'argent privé que d'argent public. Ensuite, si je veux être positive, oui, la situation est sans doute meilleure en France aujourd'hui qu'elle ne l'était avant les premières régulations qui ont été introduites en 88 et 1990. Oui, la situation est meilleure en France aujourd'hui qu'avant 1995, lorsque les dons des entreprises aux partis politiques et aux campagnes électorales étaient encore autorisés. Et oui, il faut se féliciter qu'on ait des plafonds au montant qu'on peut donner aux partis politiques en France et aux campagnes électorales.
Donc il y a des choses positives. 7500 euros.
C'est 7500 euros par an pour l'ensemble des dons aux partis politiques et c'est 4600 euros pour les dons aux campagnes électorales. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais souligner un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on a l'impression, en général, quand on entend les gens discuter de ce financement privé de la démocratie, qu'avec 7500 euros comme plafond, on a mis l'ensemble des Français sur un pied d'égalité. C'est faux. Pour la plupart des Français, le revenu médian en France est légèrement inférieur à 2000 euros par mois. Pour la plupart des Français, 7500 euros, ce n'est pas une somme que l'on peut donner à un parti politique. C'est trop élevé. Ça représente la moitié du salaire annuel d'un SMICAR. Donc déjà, pour commencer, on n'a pas mis l'ensemble des Français du tout sur un pied d'égalité. On permet à un certain nombre d'individus, parce qu'ils en ont les moyens, de donner beaucoup plus que ne peuvent le faire la majorité des Français. Et de facto, une des choses que j'ai documentées dans mon livre, c'est que j'ai regardé qui donnait aux partis politiques. Quasiment personne. C'est la première leçon. Il y a 290 000 Français qui donnent en moyenne chaque année aux partis politiques. C'est moins de 1% des Français. Maintenant, si on regarde parmi les Français qui sont parmi ceux qui ont les 0,01% des revenus les plus élevés, donc on prend vraiment les Français les plus riches, parmi eux, vous avez 10% d'individus qui donnent aux partis politiques. Parmi ces Français aux revenus, les 0,01% les plus élevés, le don moyen est de 5200 euros. Il est quasiment au plafond. On prend la majorité des Français, déjà la majorité des Français ne donnent pas, et parmi ceux qui donnent, et qui sont parmi les Français, la moitié des Français aux revenus les plus faibles, le don moyen il est de 120 euros. Parce que raison très faible, vous ne pouvez pas donner plus de 120 euros si vous êtes un travailleur précaire, si vous êtes un chômeur, même si vous gagnez le revenu médian en France. Donc on a une énorme inégalité quant à qui finance les partis politiques. Et ça, c'est une conséquence très forte, qui est que les hommes politiques, qui ont bien conscience de la nécessité d'avoir des financements privés pour leur campagne électorale, pour faire vivre leur parti politique, ces hommes politiques-là, aujourd'hui, ils ne s'adressent plus aux électeurs, à la majorité des Français, mais ils s'adressent à la poignée de ceux, les Français les plus riches, qui sont susceptibles de venir financer leur campagne électorale et leur parti politique. Et on a une déconnexion qui est due à ce poids massif de l'argent privé entre le personnel politique et la majorité des Français.
Vous dites 63 millions d'argent public, 101 millions d'argent privé. 101 millions, si on pense à ce plafond de 7500, ça montre qu'il y a quand même quelques contributeurs en France qui sont très motivés à participer à la vie publique. C'est pas un 0,001% de gens qui vont réussir à atteindre.
Il y en a quelques-uns qui sont extrêmement motivés, mais ce qui est frappant dans les données, c'est que ces Français qui sont extrêmement motivés font tous partie du haut de la distribution des revenus.
Alors il y a combien de foyers fiscaux en gros qui participent ?
Il y en a 290 000. foyers fiscaux qui donnent en France chaque année. Sur une trentaine de millions de foyers fiscaux, c'est 0,79% des foyers fiscaux qui font un don aux partis politiques aujourd'hui en France chaque année en moyenne.
Pourquoi ça ? C'est aussi parce que c'est une opération fiscale, ce don, qui est avantageuse pour un portefeuille privé. C'est avantageux pour un particulier de mettre la main à la poche, ça c'est un fait connu. Puisqu'il y a une réduction fiscale à partir du moment où on a pu donner 7500 par exemple, c'est aussi une manière d'inciter les gens à contribuer à la vie publique.
Oui, sauf que cette déduction fiscale, et ça c'est un autre scandale du système français qu'il me semble urgent de réformer, cette réduction fiscale ne bénéficie qu'aux Français les plus élevés. Donc, si vous faites partie des Français aux revenus les plus élevés et que vous donnez 7500 € par an à un parti, le coût pour vous n'est que de 2500 €. Et vous avez 5000 € qui sont payés par l'ensemble des Français. Maintenant, si vous êtes un Français aujourd'hui aux revenus modestes, en fait, vous faites simplement partie de la moitié des Français qui ne paient pas l'impôt sur le revenu.
Et si on enlève...
Vous payez beaucoup d'impôts, vous faites partie de cette moitié-là, vous donnez 600 € à un parti, quel est le coût pour vous ? 600 €, parce que vous ne bénéficiez pas de la déduction fiscale. Et du coup, on a mis en place un système en France où l'ensemble des citoyens paient pour satisfaire les seules préférences politiques des plus riches. Sur quoi je veux rajouter une chose qui nous ramène à Jeff Bezos. Comme on a pu le constater, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt sur la fortune en France l'an dernier. Donc, on pourrait se dire en toute logique, les plus riches sont encore plus riches. S'ils étaient vraiment généreux, ils pourraient faire preuve de davantage de générosité. Qu'est-ce qu'on constate dans les données ? Que cette année, en 2018, les dons aux fondations ont diminué. Pourquoi ces dons aux fondations ont-ils diminué ? Parce que les plus riches, qui n'ont plus besoin de défiscaliser, puisqu'ils ne paient plus l'impôt sur la fortune, ont cessé de donner aux fondations.
Mais alors voilà,
on voit
mais
bien
le problème,
là
le...
les véritables oui. motivations de ceux qu'on prétend être des philanthropes.
Mais on voit aussi le vice éventuel de la réforme, c'est que si s'il y a défiscalisation et si on réforme cette défiscalisation et qu'on l'enlève, on risque d'avoir une générosité moindre de la part des donateurs. Et donc quoi ? Ça veut dire des campagnes qui soient financées uniquement par l'argent du contribuable ?
Non, ça veut dire que ces généreux donateurs, entre guillemets, on les fait payer des impôts. Par exemple, on les fait payer l'impôt sur la fortune. Si on réintroduit l'impôt sur la fortune en France aujourd'hui, c'est 5 milliards de recettes fiscales supplémentaires, et ces 5 milliards de recettes fiscales, on les redistribue aux fondations, non pas en fonction des préférences d'une poignée de donateurs, mais en fonction des préférences de la majorité. C'est comme ça que ça devrait marcher dans un système démocratique, c'est comme ça que ça a marché pendant longtemps. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on l'a complètement oublié, et que de ce fait, on a laissé se privatiser le financement du bien public. Et demandez aujourd'hui en France aux conservateurs de musées. Il suffit de comparer par exemple le centre Pompidou, qui n'a que quelques millions d'euros par an d'argent public pour faire des nouvelles acquisitions, et la fondation Louis Vuitton. D'un côté, finalement, vous avez une privatisation qui va non seulement de la politique, mais aussi jusqu'à la culture, en passant par l'art, où quelqu'un, parce qu'il a à un moment donné de sa vie gagné plusieurs centaines de millions d'euros ou plusieurs milliards d'euros, peut décider finalement ce que sera demain le patrimoine culturel des Français. Et ça ne semble pas être une situation très saine.
Ça s'appelle le mécénat, ça s'appelle la philanthropie de l'autre côté. C'est aussi des lieux culturels qui sont créés à partir de ces grosses fortunes et qui ne poussent pas à la fermeture pour autant des lieux publics qui ont d'autres missions.
Oui, mais qui n'ont plus d'argent. Regardez l'université. L'université, c'est un autre exemple qui est extrêmement frappant. Avant, quand vous étiez universitaire, professeur dans une université publique et que vous vouliez faire de la recherche, vous alliez lever des fonds auprès d'institutions publiques. Aujourd'hui, l'université française est extrêmement pauvre. Elle est appauvrie. On dépense moins aujourd'hui par étudiant en France qu'il y a 10 ans. Que fait le chercheur quand il veut de l'argent pour faire sa recherche ? Il va se tourner vers des mécènes privés. Il va aller voir des fondations privées en Europe, aux États-Unis, pour financer sa recherche. Quel est l'impact ? L'impact, c'est qu'à l'arrivée, les sujets de recherche, les thèmes mêmes, sont déterminés par ces fondations privées et plus par la puissance publique. Moi, ce que je dis, c'est que je préfère un modèle alternatif où les plus riches paient des impôts et où l'argent de cet impôt sont utilisés pour financer la culture, pour financer l'éducation, pour financer la recherche et surtout, puisque c'est ce dont parle principalement mon livre, pour financer la démocratie.
Actuellement, une poignée de citoyens parmi les plus défavorisés votent deux fois, écrivez-vous dans le prix de la démocratie. Actuellement, une poignée de citoyens parmi les plus favorisés votent deux fois, une fois dans les urnes et une deuxième fois par leur porte-monnaie. Comment démontrer l'influence de l'argent sur l'élection? Est-on en train de s'américaniser? Je vous propose d'écouter le juriste américain Lawrence Lessig qui dénonçait, lui, le poids des lobbies dans le système politique américain dans un ouvrage notamment non traduit en France, Republic Lost.
In America today, we take it for granted that political campaigns will be privately funded.
En Amérique aujourd'hui, il est désormais acquis que les campagnes politiques sont financées par le privé. Mais avec le financement des campagnes, on est déjà dans la compétition, c'est déjà une primaire. Les membres du Congrès et les candidats au Congrès passent entre 30 et 70% de leur temps à récolter des fonds pour revenir au Congrès ou permettre à leur parti de revenir au pouvoir. Ils appellent des gens à travers le pays, des gens qu'ils n'ont jamais vus, pour les supplier de donner l'argent nécessaire à la campagne. Et c'est en faisant cela qu'ils comprennent ce qui fonctionne. Ils apprennent des techniques pour convaincre les gens de leur donner de l'argent. Ils développent un sixième sens, une conscience aiguë de ce qu'il faut faire pour augmenter leur capacité à lever des fonds. Ils deviennent ce qu'on appelle dans la série X-Files des polymorphes, dans le sens où ils adaptent constamment leur opinion en fonction de ce qui va faciliter la récolte d'argent.
Alors, est-ce que nos hommes politiques et femmes politiques sont aussi des polymorphes aujourd'hui en France en train de se transformer? Comment est-ce qu'on procède à des levées de fonds pour des partis ici?
Emmanuel Macron nous l'a très bien montré, hein. Vous organisez des dîners, d'ailleurs il l'a fait en France, il l'a aussi fait à Londres, il l'a aussi fait à New York, vous avez de nombreux expatriés français, vous organisez des dîners, vous passez du temps avec les plus riches, vous passez du temps avec les patrons d'entreprise et vous ne passez plus de temps avec les militants, parce que les militants ne vous rapportent pas d'argent. Et c'est ça aussi qui explique la déconnexion, d'une certaine manière, entre les élites politiques et la majorité des citoyens. C'est que les élites politiques passent la plupart de leur temps avec les citoyens les plus favorisés, et pas avec le français moyen, l'américain moyen, le britannique moyen. Et ça, je pense que d'une certaine manière, ça explique aussi la droitisation d'une partie des gauches européennes et la droitisation du parti démocrate aux États-Unis. Et ça explique en grande partie la défaite d'Hillary Clinton, qui de facto a passé plus de temps à essayer de lever des fonds qu'à essayer de convaincre les citoyens américains qui, à l'arrivée, se sont tournés majoritairement dans un rejet de ces élites politiques vers Donald Trump. Et on a pareil en Europe. Hein.
Et juste pour terminer sur les États-Unis avant d'arriver à l'Europe, vous racontez aussi dans le livre que c'était déjà le cas avec Barack Obama, qu'il existe aussi aux États-Unis un système de financement public, mais que lui y a quasiment mis fin à ce système-là.
Oui, alors c'est intéressant les États-Unis dans le livre. Dans ce livre, en fait, je fais l'histoire des financements publics et des financements privés de la démocratie dans une dizaine de pays sur plus de 50 ans. Pourquoi je fais cette histoire-là? Je fais cette histoire-là parce qu'on a eu des tentatives de régulation des financements privés, on a eu des systèmes de financement public originaux et parfois efficaces qui ont été mis en place un peu partout dans le monde, et moi je pense qu'il faut tirer les leçons de l'histoire pour proposer des solutions véritablement innovantes aujourd'hui, et qu'il n'y a pas du tout de pessimisme et qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'on peut sortir de cette crise de la démocratie et de cette crise de la représentation par le haut. Et j'espère qu'on reviendra tout à l'heure aux solutions. Maintenant, sur les États-Unis. Typiquement, les États-Unis, on a complètement oublié que c'est un des premiers pays au monde à avoir innové dès 1974 en mettant en place un système de financement public généreux de l'élection présidentielle. Ce système, finalement, il y avait un ver dans la pomme dès le départ, puisque dès le départ, en 1974, on a dit aux candidats à l'élection présidentielle, soit vous prenez le financement public, et du coup, vous êtes limité au montant du financement public dans vos dépenses, et vous pouvez pas recevoir de dons privés, soit vous renoncez au financement public, et alors là, c'est la fête, vous faites absolument ce que vous voulez. De 1974 jusqu'en 2008, tous les candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis ont utilisé le financement public de l'élection. En 2008, Barack Obama est le premier candidat à avoir refusé ce financement public pour pouvoir dépenser davantage. En 2012, l'ensemble des candidats l'ont fait pour l'élection présidentielle. Et en 2016, l'ensemble des candidats l'ont fait non seulement pour l'élection, mais également pour les primaires. Et finalement, 2016 marque la fin du financement public de la démocratie aux États-Unis. Et l'exemple d'Obama est un exemple qui est quand même extrêmement triste d'une certaine manière, parce qu'on voit là la différence entre l'homme, le citoyen, qui s'était battu pendant des années pour réduire le poids des intérêts privés aux États-Unis, et le candidat qui, de facto, est dans une logique de court terme, qui veut gagner les élections et qui en oublie ses principes mêmes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur la bonne volonté des candidats eux-mêmes, mais qu'il faut changer la régulation. Et moi, je vous conseille très fortement de lire le livre Republic Lost de Lawrence Lessig, qui est un livre extraordinaire, très intéressant, et où il a des pages très fortes sur Barack Obama, qu'il a longtemps soutenu, auquel il a longtemps cru, et qui finalement, Lessig le montre très bien, hein, Barack Obama est le candidat, non seulement qui a mis fin au financement public de la démocratie aux États-Unis, mais c'est aussi de tous les présidents américains, celui qui pendant ses deux mandats, pas seulement pendant le premier mandat, quand il cherchait à être réélu, mais également pendant le deuxième mandat, c'est celui des présidents américains qui a passé le plus de temps à faire des levées de fonds. Il était censé diriger le pays. Hein.
Et cette course à l'argent plutôt qu'une course aux voix, vous avez le sentiment qu'elle arrive aujourd'hui en Europe? Vous allez ouvrir cette page européenne.
Oui, elle est arrivée en Europe depuis longtemps dans un certain nombre de pays parce que l'argent joue un rôle croissant. Si vous regardez au Royaume-Uni, le virage pour le Labour, le parti travailliste au Royaume-Uni s'est fait à la fin des années 90. D'ailleurs, ça s'est fait, on l'a oublié, mais notamment du fait d'une décision de Margaret Thatcher, qui, au Royaume-Uni, a affaibli le lien financier entre les syndicats et le Parti travailliste. Le Parti travailliste, au Royaume-Uni, c'est un parti qui a été créé historiquement par les syndicats. Margaret Thatcher affaiblit ce lien financier. Le Parti travailliste se tourne de plus en plus vers des financements privés, ce qui a une conséquence très concrète, on le voit. Le Parti travailliste, qui était un parti d'employés et d'ouvriers, et qui avait des députés employés et ouvriers, se met à n'avoir plus aucun député employé et ouvrier au fur et à mesure qu'il reçoit de plus en plus de dons privés. Et alors avec Tony Blair, ça s'accélère, et là vous avez vraiment la course au financement privé, à la fois de la part, avec des dons de la part de millionnaires britanniques, mais également de grandes entreprises au Royaume-Uni. On a la même chose en Allemagne. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est Gerhard Schröder en Allemagne qui a libéralisé le marché du travail, ou en Italie. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant quand même, et là, on est protégé en France pour l'instant par rapport à ça, c'est qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, les dons des entreprises sont autorisés. Et moi, je vois quand même un lien très fort entre ce qui se passe en Allemagne, où vous avez une politique qui est entièrement poussée vers l'exportation, avec une pression très forte sur les bas salaires, et le fait que les secteurs exportateurs allemands financent massivement l'ensemble des partis politiques allemands. Ils donnent pas simplement à la droite allemande, ils donnent à la gauche allemande. Et si vous regardez dans les détails, il y a un exemple que je prends dans mon livre. On peut dire que c'est anecdotique, mais moi je trouve ça frappant. Un des principaux donateurs aux partis politiques allemands, encore une fois, tout le spectre, l'ensemble des partis politiques reçoivent de l'argent, c'est Philippe Maurice, le cigarettier. Et l'Allemagne est, avec la Bulgarie, le seul pays d'Europe à n'avoir pas interdit aujourd'hui la publicité pour les cigarettes. Et derrière, vous avez Volkswagen qui donne énormément, vous avez BMW qui donne énormément, et on sait le poids de ces constructeurs automobiles aujourd'hui dans la vie politique allemande.
Donc, en ce sens-là, de cela, pour l'instant, en tout cas en France, on est encore protégé, même si pour vous, le système de financement actuel détourne quand même en partie le jeu de l'élection. Vous avez calculé, Julia Cagé, le prix d'un vote. Il vaut combien en France, mon vote ?
32 euros.
Ah, c'est pas mal. C'est
un peu plus cher que mon livre.
Un peu plus cher que votre livre. Et ailleurs, il vaudrait combien ? C'est très bas ou pas ?
Oui, oui, c'est très bas un peu partout dans le monde. Ça a été estimé notamment aux États-Unis. Ça n'avait pas vraiment été estimé ailleurs en Europe, justement parce qu'on avait ce sentiment en Europe pendant longtemps qu'on était protégé de l'argent privé par rapport à la situation un peu extrême aux États-Unis. Le prix d'un vote, c'est pas très cher. Les plus riches donnent aux partis politiques alors que les plus pauvres ne le font pas. Ce sont les partis de droite qui reçoivent majoritairement les dons des plus riches. Les dons privés aux partis politiques, c'est 11 fois plus pour les Républicains que pour le Parti Socialiste. Conséquence, on a une privatisation du jeu démocratique par les plus favorisés. Et je pense qu'il faut quand même avoir bien conscience de ça. Parce que on ne comprendra pas la montée un peu partout des populismes. En Italie, aux États-Unis, en Europe de l'Est, si on ne comprend pas ce ressentiment profond qu'ont les citoyens par rapport à leurs élites politiques, parce que les gens ne perçoivent peut-être pas directement ce poids de l'argent privé, mais ce que les gens qui ne sont pas bêtes perçoivent très bien, c'est la déconnexion du personnel politique.
En même temps, il n'est pas toujours prouvé que les candidats qui reçoivent et dépensent le plus sont ceux qui font ou qui gagnent l'élection. Julia Cagé, exemple d'un candidat que vous avez suivi de près, Benoît Hamon, qui durant la campagne a fait un meeting spectacle très beau.
À Bercy.
Grand, à Bercy. C'était à Bercy en mars 2017, vous y étiez ?
Oui, j'y étais.
Et il n'est pas parvenu pour autant à inverser la tendance.
N'hésitez pas, monsieur, c'est gratuit. Vous pouvez prendre le petit badge, le stylo.
25 000 personnes se sont déplacées. Un groupe d'électro populaire chauffe la salle. Les moyens vidéo sont dignes des plus grands concerts. Ce grand show a finalement coûté 920 000 euros. Le plus cher de la campagne, tout candidat confondu.
Vous êtes chômeur, créez votre entreprise.
Avec un peu plus de 6% des voix seulement, le PS a réalisé son pire score depuis 50 ans. L'État remboursera près de 8 millions d'euros au parti pour ses frais de campagne.
Voilà, extrait d'un pièce à conviction diffusé sur France 3, sur les comptes de campagne, à peu près 300 000 euros rien que pour l'allocation de la salle à Bercy. Alors on se demande un peu qu'est-ce qui coûte autant d'argent, pourquoi est-ce qu'il faut en dépenser autant, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement changer nos manières de faire campagne pour arriver à un juste prix de la démocratie ?
Bon, je pourrais déjà dire que 300 000 euros, c'est parce que Benoît Hamon, contrairement à certains autres candidats, n'a pas bénéficié de ristourne au moment de l'allocation de salle. Et je vous renvoie à vos confrères de Mediapart. Moi, je pense pas qu'il faille changer la manière de faire de la politique. C'est important les meetings, c'est important les tracts, c'est important de pouvoir communiquer avec les citoyens, de se rendre sur le terrain. Par contre, ce que je pense et ce que je propose dans mon livre, c'est de changer le financement de la politique. Et ça, c'est extrêmement important. En gros, le constat, c'est de dire que, un, la crise de la démocratie n'est pas une fatalité. Deux, la démocratie a un coût. Si ce coût n'est pas financé par la puissance publique, alors il le sera par les intérêts privés.
Oui, mais on pourrait quand même dans ces campagnes tendre un tout petit peu vers la frugalité aussi, pas forcément tout le temps. Cette course à la démesure qu'on peut voir aux États-Unis d'ailleurs aussi et qu'on commence à voir en France.
On dépense beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Et en France, on n'a pas revu au cours des dernières années les plafonds de dépenses à la hausse. J'ai aucun problème à baisser les plafonds de dépenses. Pour moi, c'est juste pas l'urgence. Pour moi, l'urgence, c'est de baisser les plafonds de dons, de limiter le poids des intérêts privés et surtout de revoir le financement public. Et là, je voudrais en venir à une des propositions que je fais dans le livre qui me semble extrêmement importante. On a aujourd'hui un financement public de la démocratie en France qui est un financement figé. Ce financement est figé par intervalle de 5 ans. Ce qui veut dire qu'en France, aujourd'hui, si vous voulez gagner une élection, même aller à une élection, il faudrait presque avoir remporté la précédente. Pourquoi ? Parce que les partis politiques aujourd'hui en France sont financés en fonction des résultats qu'ils ont obtenus aux législatives précédentes. Ce qui veut dire que si vous êtes un nouveau parti politique, vous n'avez aucun financement public. Et que vous n'avez, à moins d'être un parti marqué à droite économiquement, qui va aller démarcher les donateurs privés, aucune chance d'émerger entre deux élections. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut moderniser ce financement et il faut le dynamiser et rétablir ainsi un lien de confiance entre les mouvements politiques et les citoyens.
Et parmi les solutions que vous proposez, Julia Cagé, il y a cette idée du bon pour l'égalité démocratique, une sorte de financement public égalitaire de la démocratie. Comment ça fonctionnerait ? On donnerait 7 euros, c'est ça, à chaque citoyen qu'il peut attribuer au parti, au mouvement politique de son choix. Et c'est un système de crédit d'impôt. Vous racontez que... Non.
C'est pas un système de crédit d'impôt, c'est l'État. Vous avez une case sur votre feuille d'impôt. Exactement comme le fonds présidentiel aux États-Unis, vous avez une case sur votre feuille d'impôt, vous la cochez, vous mettez le nom d'un mouvement politique et l'État verse ces 7 euros pour vous au mouvement politique de votre choix.
C'est-à-dire que je dis à l'administration fiscale quelles sont mes sensibilités. Finalement, je déclare à qui je veux apporter mon soutien.
Vous ne le dites pas directement à l'administration. Enfin, vous le à l'administration fiscale, vous l'indiquez afin qu'il y ait un versement qui est fait au parti ou au mouvement politique de votre choix, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, dans ce cas-là, vous ne cochez pas la case et vos 7 euros seront reversés au parti en fonction des résultats obtenus à l'élection législative précédente.
Enfin, ça pose quand même un problème de confidentialité. C'est-à-dire que dans la grande banque de données de l'État,
Il faut que je vous dise quelque chose. Vous avez aujourd'hui en France 290 000 citoyens qui donnent aux partis politiques chaque année. Quand ils font un don aux partis politiques, ils ont un reçu don. Ce reçu don, si l'administration fiscale le leur demande, ils doivent lui envoyer avec le nom du parti politique. Est-ce que vous avez jamais eu, comme journaliste, accès au moindre nom d'un donateur en France? Est-ce que vous savez que Monsieur X ou Madame Y a donné un chèque de 5600 euros à En Marche ou un chèque de 3200 euros aux Républicains?
Je ne vais pas aller chercher. Non.
Et d'accord. Pourtant, l'administration fiscale, chaque année, elle reçoit cette information. Alors, c'est juste que cette information, comme votre salaire, comme votre nombre d'enfants, comme votre adresse personnelle, comme votre cotisation à un syndicat, comme le fait que vous ayez refait vos fenêtres avec des normes environnementales, cette information, c'est une information qui est secrète.
Voilà, et c'est une information qui va être prélevée à la source, puisque maintenant le système est en train de changer, si j'ai bien compris quelque chose.
Non, parce que vous ferez encore votre déclaration d'impôt chaque année, donc c'est pas à votre employeur que vous déclarerez le nom du mouvement politique. Non, mais il faut être extrêmement...
Là-dessus, à qui je peux donner dans ce système-là? Est-ce que c'est à des partis, du coup, qui sont déjà bien installés, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire comme aujourd'hui, ou est-ce que je peux donner à un micro-parti décent qui n'a jamais gagné
Vous pouvez donner à l'ensemble des mouvements politiques, les mouvements politiques étant très précisément défini en France, hein, on a quasiment 500 mouvements politiques aujourd'hui en France, il faut déclarer ses comptes à la commission des comptes de campagne qui est en charge du contrôle des mouvements politiques. Ce que je dis, par contre, dans le livre, c'est que pour qu'un parti politique bénéficie effectivement de ces 7 euros, il faut qu'il ait reçu au moins 7 euros de la part de 1% des citoyens. Et dans ce cas-là, si vous donnez par contre un micro-parti politique inexistant, ça sera considéré de la même manière que si vous n'aviez pas alloué vos 7 euros. Et dans ce cas-là, ils seront attribués en fonction des résultats obtenus aux législatives précédentes. Donc ça permet l'émergence de nouveaux mouvements politiques chaque année. Et ça, c'est une vraie nouveauté, mais tout en évitant les défauts qu'on pourrait avoir s'il n'y avait absolument aucun contrôle.
Dernière question, Julia Cagé. Dans le projet de loi sur la confiance de la vie démocratique, à l'époque, il avait été envisagé, sous les recommandations de François Bayrou, c'était une idée du MoDem, une banque de la démocratie, une structure qui aurait permis de revoir aussi le financement des partis qui n'ont pas réussi à emprunter de l'argent pour leur campagne. Cette idée, elle a été abandonnée, si je ne me trompe.
Oui. Pourquoi? Par Emmanuel Macron? Parce qu'il n'y a pas intérêt. Parce que quand vous êtes La République En Marche, vous touchez chaque année, dès 2016, dès la première année, près de 5 millions d'euros de dons. Donc vous êtes extrêmement bien doté et vous n'avez aucun intérêt à ce que les autres mouvements politiques qui vont venir vous faire concurrence soient davantage dotés et surtout soient dotés de manière égalitaire. En fait, vous êtes content d'être en avance sur la ligne de départ et moi ce que je voudrais c'est de mettre tout le monde à égalité sur la ligne de départ. L'idée de Banque de la démocratie est une idée qui me paraît extrêmement intéressante. Le seul défaut que je lui fais dans le livre, c'est le fait de n'être centré que sur les élections. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir un financement public égalitaire chaque année, parce que je pense qu'il faut aussi responsabiliser les mouvements politiques et notamment d'opposition entre deux élections.
Merci beaucoup, Julia Cagé. Le prix de la démocratie, une démonstration implacable, c'est écrit en couverture. Et votre livre vient de paraître chez Fayard. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette belle semaine, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Maya Neskovic et Laura Dutèche pour la Grande Table des Idées, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Clément Daté. Je vous souhaite une très belle après-midi, un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi.